17 heures à Paris et à Madrid, 5 heures en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Andréane Mélard.
Après une nuit aux chandelles, le courant revient sur la péninsule ibérique.
L'électricité presque entièrement rétablie en Espagne et au Portugal, frappée par cette coupure de courant massive qui aura provoqué la pagaille un peu partout. On est à Madrid dans ce journal. Au Canada, Marc Carney donné vainqueur des législatives avec son parti libéral et c'est un peu grâce à Trump. Le président russe promet une trêve de 3 jours du 8 au 10 mai. On verra que les Ukrainiens n'y croient guère et craignent même un piège. Et puis en football, Liverpool, c'est fait. Aston Villa, c'est fait. Prochain club anglais sur la liste des Parisiens, Arsenal, qu'ils espèrent éliminer eux aussi en Ligue des Champions. Demi-finale, aller ce soir à Londres.
En Espagne et au Portugal, on se réveille enfin avec de l'électricité.
Après cette panne de courant géante hier sur la péninsule ibérique, elle aura paralysé de nombreux secteurs, surtout les transports. Pagaille dans les rues de Madrid, par exemple, où il a fallu improviser et patienter. Reportage sur place de Diane Cambon.
Des embouteillages monstres dans les grandes villes du pays, des milliers de personnes à faire la queue aux arrêts de bus ou marchant sur les routes, cherchant à regagner leur domicile. Les Espagnols viennent de connaître leur premier grand apagón, une coupure d'électricité qui a duré près de 10 heures dans certains endroits de la péninsule. Sans courant, la population a dû s'adapter à des conditions de vie inédites. Carmen a la chance de vivre proche de son travail et a pu rentrer chez elle à pied dans un quartier central de Madrid.
Eh bien, au début, on pensait que cela allait durer peu de temps. On a vu que cela ne revenait pas. On était à la maison et on a sorti un vieux transistor qui marche à pile, heureusement. On s'est tenu informé comme ça, mais évidemment, pour le déjeuner, on n'a pas pu cuisiner, ni rien réchauffer. La vitre céramique ne sert à rien. Pas d'internet, pas de télévision. Tu ne prends pas conscience de l'importance de l'électricité jusqu'à ce que tu le vives.
Dans les quartiers d'affaires de la capitale, les bureaux se sont peu à peu vidés et les parcs de la ville se sont remplis de promeneurs dans l'attente que le courant revienne, comme c'est le cas pour Sofia, une madrilène.
On était tranquille, on s'est arrêté de travailler, on a fait une balade. Heureusement, j'avais un peu d'argent liquide sur moi et j'ai trouvé une petite épicerie ouverte où j'ai pu acheter quelque chose à manger, car tous les supermarchés étaient fermés.
Pour d'autres, l'expérience a été plus désagréable. Près de 500 personnes ont été bloquées dans des ascenseurs dans la seule région de Madrid. Diane Cambon, Madrid. RFI.
Et on retient que les vieux postes radio à pile, ça peut toujours servir. C'est d'ailleurs sur des vieux transistors que la plupart des Espagnols ont suivi le discours du Premier ministre Pedro Sanchez, qui affirmait hier qu'aucune hypothèse n'était exclue pour expliquer les causes de cette panne. L'Espagne et le Portugal ont été les pays les plus touchés, mais une partie de la France aussi a subi cette coupure dans le sud. Pour Mathieu Binot, directeur général de Voltalis, qui s'occupe de la flexibilité des réseaux électriques en Europe, pour lui donc l'interconnexion des réseaux européens explique cet effet domino.
Comme tous les systèmes sont interconnectés entre eux, si vous avez un problème à un endroit, une ligne qui est en difficulté, qui doit être arrêtée à cause d'un incident climatique, l'électricité qui est produite doit passer ailleurs. Mais si le reste des tuyaux est trop petit, on se met à saturer le système, ça se déverse encore ailleurs, qui à nouveau se retrouve saturé, etc., etc. Et vous avez un effet domino, qui est sans doute ce qui s'est passé à l'échelle de la péninsule ibérique. Les pays sont solidaires entre eux, et d'ailleurs ça nous rend en permanence service, parce que ça permet dans les deux sens de s'entraider face aux pics de consommation ou aux pics de production, parce que chaque pays n'a pas les pics au même moment. Tout le monde est à tour de rôle, exportateur et importateur. Évidemment, la difficulté de l'Espagne, c'est comme c'est une péninsule, il n'y a pas beaucoup de lignes qui la relient au reste de l'Europe, et donc elle est moins protégée contre ce genre d'aléas que l'Europe continentale.
Mathieu Binot de Voltalis avec Anne Verdaguer.
Au Canada, le parti libéral donné vainqueur des législatives.
Première projection des médias, alors que les bulletins continuent d'être dépouillés, Marc Carney devrait donc rester Premier ministre. Il a réussi à inverser les intentions de vote. Les conservateurs étaient donnés favoris il y a quelques mois, avant que le voisin américain Donald Trump ne déclare une guerre commerciale et répète ses ambitions d'annexer le Canada. Au QG des libéraux, à Ottawa, on se réjouit forcément. Le profil d'ancien banquier de Marc Carney a séduit notamment Guillaume, membre de l'équipe de campagne du parti.
Le chef était très solide, c'est pas un politicien expérimenté. C'est pas un politicien de carrière, mais on a vu que tout au long de la campagne, c'est beaucoup, beaucoup amélioré, notamment son français. C'est quelqu'un qui connaît vraiment bien l'économie. C'est la bonne personne pour faire face aux défis qu'on a présentement au sud de la frontière, donc on est très, très heureux, oui.
Qu'est-ce qu'il a bien fait?
pendant cette campagne?
Je crois que c'est juste de rien prendre pour acquis, puis de prendre les choses au sérieux quand c'est nécessaire. Puis on a vu beaucoup de combativité du chef tout au long de la campagne, en particulier vers la fin, où ce que cette semaine, il était dans toutes les provinces, ou presque. Oui, ben c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais on a vu beaucoup d'améliorations au cours de la campagne, oui.
Guillaume de l'équipe de campagne des libéraux avec Marine de la Moissonnière. En revanche, les libéraux pourraient rester minoritaires au Parlement. Ils pourraient donc être contraints de gouverner avec l'appui d'un autre parti.
RFI à 8h05 à Moscou et à Kiev. Le président russe annonce une trêve de 3 jours en Ukraine du 8 au 10 mai prochain.
D'ici 10 jours, donc, à l'occasion de la commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais en Ukraine, personne ne croit vraiment à cette annonce de Vladimir Poutine. Reportage à Kiev, Cerise Sudriledu.
À chaque fois, la réponse est unanime.
Nien.
Quand on demande aux habitants de Kiev ce lundi s'ils croient aux annonces de Vladimir Poutine qui a promis un cessez-le-feu pour le 8 mai, tous les habitants répondent qu'ils n'y croient pas un seul instant. Vitaly, 41 ans, se promène avec sa femme.
Personne ne croit à ces paroles, c'est du délire. Il n'y aura aucun cessez-le-feu. Ils ont bombardé, ils continueront de bombarder, car ils veulent s'emparer de toute l'Ukraine. Il n'y aura pas de trêve, aucun cessez-le-feu annoncé n'a fonctionné, aucun.
Un peu plus loin, la jeune Anna, étudiante en art, renchérit.
Je ne lui fais absolument pas confiance. Si j'ai appris quelque chose dans ma vie pendant cette guerre, c'est bien cela. Il n'est pas digne de confiance. Il a brisé tant de promesses pendant sa présidence, surtout vis-à-vis de l'Ukraine. Donc le cessez-le-feu pourrait être un piège.
Dans un square, Tetiana, la soixantaine, profite des derniers rayons du soleil avec ses amis.
Nous sommes 4 ici. Personne ne croit à ce cessez-le-feu. Surtout pas pour le jour de la victoire. Nous avons même peur de ces jours-là. Nous aurons peur de sortir pour éviter les bombardements.
Volodymyr Zelensky lui-même l'a rappelé dans un message Telegram envoyé dans la soirée. Il n'y a aucun signe que la Russie se prépare à un vrai silence. Cerise Sudriledu, Kiev, RFI.
Volodymyr Zelensky parle même d'une tentative de manipulation alors que Washington continue de faire pression pour arriver à un accord de cessez-le-feu. Le président français lui assure que les Occidentaux, américains compris, vont accroître la pression sur la Russie dans les 8 à 10 jours prochains. Déclaration d'Emmanuel Macron dans le journal Paris Match. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a lui demandé à son homologue russe Sergueï Lavrov de mettre fin à une guerre insensée.
La Russie étend ses intérêts aurifères, ses intérêts pour l'or en Centrafrique via le groupe paramilitaire Wagner.
La mine d'or de Ndassima dans le centre est depuis 2019 sous le contrôle d'une compagnie liée au groupe de mercenaires. C'est d'ailleurs sa première source de financement dans le pays. Et désormais, ils investissent dans un autre site. C'est ce que démontrent les enquêteurs du groupe All Eyes on Wagner qui surveillent les actions de la nébuleuse. Et démontre François Mazet que Wagner développe de plus en plus ses activités dans une autre mine, celle d'Idéré, près de la frontière camerounaise.
Excavateurs, pistes, miradors, baraquements militaires et tranchées. Les images satellitaires sur lesquelles s'appuie All Eyes on Wagner montrent la progression de l'activité sur le site d'Idéré entre décembre 2023 et février 2025. Cette mine a fait l'objet d'un permis signé début janvier 2024 au profit d'une entreprise baptisée Heavy Industrial. Quelques mois plus tôt, en mai 2023, cette compagnie signait une convention de partenariat pour 25 ans avec l'État, 2 mois à peine après son inscription au registre du commerce de Bangui, selon les documents consultés par les auteurs. Ceci pointe un régime fiscal très favorable à l'entreprise, pratique habituelle pour les sociétés liées au groupe Wagner. Derrière Heavy Industrial, une directrice centrafricaine également à la tête d'une autre entreprise, General Resources, créée à la même époque, une gérante de paille, affirment les enquêteurs, là encore une habitude pour les sociétés liées aux intérêts russes qui exploitent or, diamants et bois en Centrafrique. Reste à savoir où, comment et au profit de qui est vendu l'or d'Idéré. All Eyes on Wagner souligne qu'en RDC voisine, des Russes ont monté une entreprise du même nom et qu'ils sont également propriétaires d'une société qui a déclaré pour près $1,5 million de dollars d'or vendu aux Émirats Arabes Unis depuis 2022.
François Mazet du service Afrique de RFI.
RFI, le journal de Marion Casanova à la une. Un ancien rebelle salafiste syrien jugé pour complicité de crimes de guerre.
Les faits se seraient produits entre 2013 et 2016 en Syrie. Lui conteste ses accusations et sera jugé à Paris. Majdi Nema sera jugé donc en France en vertu de la compétence universelle de la justice française, Laura Martel.
Officier de l'armée syrienne, Majdi Nema fait défection fin 2012 pour rejoindre l'IWA, l'islam. Ce groupe, qui a pris dès 2011 le contrôle de la route orientale au nord-est de Damas, deviendra en 2013 Jaïch al-Islam. Porte-parole du mouvement jusqu'en 2016, Majdi Nema est notamment soupçonné d'avoir participé à l'enrôlement de mineurs et à leur formation à l'action armée. Des accusations qu'il conteste, affirmant n'avoir eu qu'un rôle limité dans cette faction qui combattait le régime et prônait la charia. Ce trentenaire syrien comparé à Paris en vertu de la compétence universelle celle qui permet aux juridictions françaises de juger les auteurs des crimes les plus graves, comme les crimes de guerre, même si ces faits sont commis à l'étranger, par des auteurs étrangers contre des victimes étrangères, mais sous certaines conditions. Notamment qu'aucune autre juridiction ne réclame le suspect et qu'il réside habituellement en France. Arrivé dans l'Hexagone début novembre 2019, Majdi Nema a été arrêté le 29 janvier 2020 à Marseille, où il s'était inscrit à l'université. Sa défense, qui conteste depuis le début l'usage de la compétence universelle dans ce dossier, estime que la chute de Bachar el-Assad fin 2024 rend d'autant plus illégitime la tenue de ce procès en France. Les parties civiles soulignent-elles qu'il reste impossible encore à l'heure actuelle de juger ses crimes en Syrie.
Majdi Nema en cours 20 ans de prison. Son procès se déroulera donc à Paris jusqu'au 27 mai. Toujours en France et dans le volet judiciaire, les premiers mots du meurtrier de la Grande Combe. Cet homme de 21 ans qui a tué vendredi un jeune malien dans une mosquée, il s'est rendu dimanche soir à la police en Italie. Ce Français nie avoir agi par haine de l'islam et dit avoir été pris par une pulsion meurtrière. Pourtant, il avait filmé une vidéo juste après le meurtre dans laquelle il insultait l'islam. En football, le PSG joue ce soir sa demi-finale aller en Ligue des Champions et espère poursuivre leur série de victoires face au club anglais. Ils en affrontent un nouveau ce soir, celui d'Arsenal, dans la capitale anglaise qui accueille ce match. On se méfie d'une équipe qui ne cesse de progresser. Reportage Cédric de Oliveira.
Gabriel Martinelli a 23 ans et face à Paris, il disputera la première demi-finale de Ligue des Champions de sa carrière. Mais l'attaquant brésilien n'a pas l'air impressionné visiblement par l'adversaire.
On a beaucoup de respect pour le PSG, mais bon, il faut être honnête, on ne pense pas trop à eux.
Martinelli avait été buteur face au Real Madrid au tour précédent pour des Gunners sûrs de leur force, à l'image de certains de leurs supporters. Stephen est né dans le nord de Londres, à deux pas de l'Emirates.
On a plus d'expérience en Ligue des Champions, donc je dirais qu'on a peut-être 55 à 60% de chances de gagner. Ça fait quelques années qu'à Paris, ils en rêvent. Ils ont parfois été tout proches, mais je pense que sans les stars, Mbappé, Neymar et Messi, ils sont meilleurs maintenant. Ça semble fou, mais c'est la vérité.
Après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, ce PSG a donc plutôt convaincu les fans d'Arsenal. Omari, étudiant kényan installé depuis 7 ans à Londres, n'est pas complètement rassuré.
C'est une très belle équipe. Ils jouent beaucoup mieux que la dernière fois qu'on les avait affrontés. Et même si le stade risque d'être acquis à la cause des Gunners, leurs joueurs n'auront pas peur. Et ils ont un super gardien qui est Donnarumma. C'est la seule chose qui me fait peur. Mais je dirais qu'on est confiant.
En guise de dernier argument, les fans d'Arsenal pourront aussi s'appuyer sur cette statistique. Le PSG n'a jamais battu leur club en Coupe d'Europe. Cédric De Oliveira, Londres, RFI.
Cédric De Oliveira, que l'on retrouve en direct à 7h, temps universel pour notre dossier du jour et qui sera au commentaire pour ce match à suivre en intégralité sur RFI ce soir, coup d'envoi 19h. T'as eu l'autre affiche de ces demi opposera demain Barcelone à l'Inter Milan.
Merci Marion Cazeneuve, rendez-vous ce soir donc pour ces demi-finales et on commence, enfin pour cette demi-finale et on commence à en parler dès ce matin dans nos journaux des sports avec Antoine Grenier, le premier de ces journaux des sports. C'est dans une demi-heure, on va aussi parler du tour cycliste du Bénin qui a démarré hier. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 10h avec l'ensemble de la rédaction au programme Le Canada, Les Libéraux et Marc Carnet, donné vainqueur des législatives anticipées. Nous serons sur place au cœur de la nuit dans le pays pour vivre ses résultats. Et à l'instant, le chef des conservateurs battus promet l'unité contre Donald Trump. On parle justement ce matin des États-Unis et des 100 jours de présidence de Trump, justement un début de deuxième mandat explosif. On va en parler à la une également, cette coupure de courant géante et exceptionnelle en Espagne et au Portugal. Et puis, suite aussi ce mardi de notre série de reportages au Soudan, le pays en guerre, et où il est trop rare de pouvoir obtenir des récits et des témoignages. RFI vous emmène à Khartoum ce matin. Reportage à écouter dans une heure. Vous avez une petite partie du programme. On peut commencer. « Et d'abord, cette histoire déroutante qui nous vient d'Australie et qui concerne la faune locale, littéralement décimée par une espèce de crapaud, le crapaud buffle, originaire d'Amérique centrale et introduit en Australie dans les années 30. Des crapauds à la peau venimeuse, on peut donc comprendre leur dangerosité, sauf que la faune locale, elle, ne sait pas qu'elle doit s'en méfier. Or, des scientifiques ont peut-être trouvé une solution assez peu orthodoxe, le cannibalisme. On en parle ce matin avec notre correspondant à Sydney. Bonjour Grégory Pless.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors Grégory, racontez-nous un petit peu cette histoire.
Alors, c'est vrai que présenté par le biais du cannibalisme, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourtant c'est le fonctionnement normal des crapauds, ou plutôt des bébés crapauds, les têtards, quand ils sont à l'état de têtard, la nourriture qui leur plaît le plus, ce sont en fait les œufs de crapauds. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils savent que ces œufs, ce sont de futurs potentiels concurrents. Et puis quand une femelle crapaud pond, ce sont des milliers d'œufs d'un coup, et donc des concurrents qui se battraient pour les mêmes sources de nourriture. Et donc, c'est très important pour eux de s'en débarrasser avant qu'ils n'éclosent. Le cannibalisme, ça n'a pas été introduit par les scientifiques dont on va parler. La nouveauté qu'ils ont apportée, c'est qu'ils ont modifié génétiquement certains têtards pour faire en sorte qu'ils deviennent une espèce de Peter Pan, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent jamais l'âge adulte et qu'ils ne deviennent jamais des crapauds. Et par ailleurs, ces têtards génétiquement modifiés, ils ont un appétit jusqu'à 4 fois plus important que des têtards classiques. L'idée donc, c'est d'introduire ces têtards Peter Pan cannibales dans des zones de ponte de crapauds buffles pour se débarrasser de tous ces œufs. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à attendre que ces têtards meurent de vieillesse sans qu'ils deviennent jamais des crapauds et sans donc qu'ils représentent le moindre danger pour les autres espèces animales.
Sans qu'ils représentent donc un danger pour les autres espèces. Alors Grégory, ces crapauds buffles, on le disait, ils sont originaires d'Amérique. Comment se sont-ils retrouvés en Australie ?
Ils ont été introduits en fait en 1935 par des planteurs de canne à sucre du Queensland qui espéraient avec ces crapauds se débarrasser de scarabées qui mangeaient leurs récoltes. Alors, les crapauds ont effectivement bien festoyé avec les scarabées. Le problème, c'est qu'en Australie, ils n'ont aucun prédateur naturel. Ils se sont donc multipliés et finis par essaimer à travers quasiment tout le continent. On en recenserait aujourd'hui plus de 200 millions. Et le problème, vous l'avez pointé tout à l'heure, c'est qu'ils ont une peau extrêmement venimeuse à laquelle la faune locale n'est pas habituée, ne sait pas s'en méfier. Et donc, on a des oiseaux, des lézards, des petits mammifères et même des crocodiles qui, en les croquant, meurent. Ça provoque chez eux, en fait, un arrêt cardiaque. Et les scientifiques qui étudient le sujet depuis des années ont montré à de nombreuses reprises que quand des crapauds arrivent dans une zone donnée, en quelques mois à peine, on a la population d'une autre espèce animale qui est quasiment entièrement décimée en à peine quelques mois. Sur ce sujet, du coup, l'Australie a à peu près tout tenté depuis 1935 pour se débarrasser de crapauds, jusqu'à présent sans succès. C'est pourquoi l'annonce de cette découverte scientifique est reçue aujourd'hui avec autant d'optimisme, parce que peut-être enfin on va voir le bout de cet enfer.
Merci Grégory Pless pour le récit de cette bataille que livre donc en ce moment l'Australie. RFI Matin, 7h18 à Paris, on est ensemble jusqu'à 10h dans une dizaine de minutes. L'information africaine suivie de notre invité Afrique, l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopez, pour parler de la bataille que se livrent en ce moment les candidats en lice pour le poste de nouveau président de la Banque africaine de développement. Rendez-vous à 7h44. Autre invité ce matin sur RFI, l'écrivain français Marc Lévy. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Marc Lévy qui nous donnera son ressenti, son vécu, lui qui vit à New York et observe de près la présidence de Donald Trump et ses décisions depuis son retour au pouvoir il y a 100 jours.
Oui, Marc Lévy est l'écrivain français contemporain le plus lu au monde depuis plus de 20 ans. Il a vendu 50 millions d'exemplaires de ses livres traduits en 50 langues. Son dernier roman, La librairie des livres interdits, est paru chez Robert Laffont quelques jours après la réélection de Donald Trump. Il a imaginé l'histoire d'un libraire jeté en prison pour avoir vendu des livres interdits. Roman qui fait évidemment écho aux milliers de livres retirés des bibliothèques scolaires américaines, parce qu'on y parle d'identité de genre, d'inégalité raciale ou de violence sexuelle. Marc Lévy, français, américain d'adoption depuis 17 ans, s'inquiète d'un grand mouvement de censure, de la dérive trumpienne et de la guerre lancée contre la culture et les savoirs. avoir aux États-Unis. Il est avec nous tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud. Rendez-vous à 8h20, heure de Paris. Les 100 jours de Trump au pouvoir aux États-Unis. On y reviendra demain toute la journée à l'occasion d'une journée spéciale sur RFI. Programmation spéciale également dès hier, dès aujourd'hui même, sur notre site RFI.fr. Comment l'America First de Donald Trump fait reculer les États-Unis sur la scène internationale. Ça se passe sur le www.rfi.fr. Demain, ça fera 50 ans, jour pour jour, depuis la fin de la guerre du Vietnam, l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. C'était le 30 avril 1975, la ville de Saigon, bastion occidental du Sud, tombe aux mains de l'armée populaire vietnamienne. Une débâcle pour les États-Unis engagés dans le conflit et le début d'une nouvelle ère marquée par la réunification du pays dirigé depuis 5 décennies par un régime communiste. De nombreux Vietnamiens fuient à ce moment-là ce nouveau régime par la mer. On les appellera plus tard les Boat People, et beaucoup trouvent refuge en France, notamment à Bussy-Saint-Georges, à l'est de Paris. Baptiste Coulon s'y est rendu et a rencontré 3 générations de Vietnamiens qui racontent leur rapport à cette guerre.
La journée du 30 avril 1975, c'est une journée que je n'ai jamais oubliée.
An Linh Tran est officier dans l'armée du Sud-Vietnam pendant la guerre. Ce 30 avril 1975, lui et la centaine d'hommes qu'il dirige n'ont d'autre choix que de se rendre.
Au niveau de la nourriture, on n'a pas suffisamment pour résister. Et au niveau des munitions aussi, nous avons déposé les armes. Nous sommes très, très tristes. Mais on peut pas faire autrement.
Le nouveau régime l'emprisonne durant 3 ans, puis il fuit son pays à contre-cœur, embarque avec lui les traumatismes de la guerre. Direction la Malaisie en bateau, puis la France où naissent ses enfants, des enfants curieux de connaître les origines du père.
À l'époque, je le promettais de l'amener au Vietnam, l'endroit où je suis né et sa mère aussi. Mais je dis comme ça, mais vous savez, les enfants, quand on dit quelque chose, ils se souviennent. Et il m'a demandé. À l'approche du débat, j'ai encore négocié avec mes enfants que pour moi, c'est pas encore le moment. Parce que je supportais pas le communiste.
Le voyage aura finalement lieu en 2019. Un retour au pays 40 ans après l'avoir quitté. Depuis, c'est dans un livre adressé à ses enfants qu'il a couché ses souvenirs.
De l'armée jusqu'à la prison et quand je suis venu en France.
Vous leur racontez tout ?
Presque tout.
Car une partie du récit est toujours douloureuse, alourdie par le tabou de la guerre et le déracinement.
Je raconte pas la tristesse que j'ai vécue, je leur impose pas en fait. C'est pas leur histoire.
Avec ses enfants, Tran Phung Vo Nguyen fait aussi le choix de l'économie des mots. Lui a quitté le Vietnam à l'âge de 9 ans.
On est parti sur un petit bateau, on n'est pas très nombreux, 20aine de personnes.
Mais dans son cas, dit-il, ses enfants se préoccupent assez peu de son histoire et du passé.
Comme ils sont, entre guillemets, nés en France et ils ont une mentalité française, le Vietnam, pour eux, c'est un pays de touristes. Même pour moi, maintenant, si je les emmène, c'est vraiment pour le paysage.
Et absolument pas l'aspect mémoriel.
Oui, mémoriel, non. Ce sera avec nous ici, plutôt.
À 18 ans, Vo Minh Quan, né en France, confirme. Il pose peu de questions à ses aînés, par crainte de réveiller des blessures, par volonté aussi d'écrire sa propre histoire.
J'ai étudié la géopolitique au lycée, donc je connais l'importance de la mémoire et du devoir de mémoire, mais pour autant, j'essaie de pas me définir par mon passé et par mes origines. J'essaie de me définir par mes propres actions. Je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé, de savoir comment ça a affecté ma vie indirectement. C'est important d'en avoir conscience, mais pour autant, je n'ai pas envie que ça influence ce que je ferai à l'avenir.
Mais le jeune homme participera tout de même aux commémorations organisées à Bussy-Saint-Georges, où une petite stèle rend hommage aux immigrés vietnamiens.
Reportage de Baptiste Coulon, RFI. Tout de suite, on passe à la question d'environnement.
RFI Matin.
Et on se penche ce matin sur le monde de la culture et plus précisément sur les tournées XXL de certains artistes. À quoi pourraient ressembler ces tournées dans une perspective éco-responsable? Aujourd'hui, l'empreinte carbone de ces événements est colossale, mais des alternatives vertes sont imaginées. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors en France, Écoscène, syndicat du spectacle vivant privé, a récemment présenté au Printemps de Bourges une initiative issue d'un appel à projet de l'État et visant à promouvoir justement ces alternatives.
Oui, l'objectif de ce projet appelé Matrice, c'est d'atténuer l'empreinte carbone de ces méga-tournées, mais pas seulement. C'est aussi de diminuer les différentes sources de pollution ou encore de préserver la biodiversité. Jusqu'ici, les projets pro-environnement s'intéressaient surtout aux salles de spectacle, aux festivals. On peut citer notamment le festival We Love Green, organisé depuis 2010 à Paris, sur une base simple, montrer qu'il est possible de respecter l'environnement lors de grands événements événements musicaux. Au programme, en dehors des artistes sur scène bien sûr, gestion des déchets, restauration durable, alimentation en énergie renouvelable et sensibilisation des festivaliers. Il faut dire que l'impact environnemental est certain, preuve à l'appui avec le festival américain Coachella en Californie. Selon la ville qui accueille l'événement, en 2 semaines, ce sont 107 tonnes de déchets produits dont seulement 20% seront recyclés. Mais pour les festivals, comme pour les grosses tournées, ce sont surtout les transports qui posent problème.
Et il faudrait prendre le problème à la source, c'est ce que dit le syndicat Écocène.
Oui, c'est dès la conception des tournées et de la production de spectacles qu'il faut prendre le problème à la racine. De quoi élargir les questions sur la préservation de l'environnement, selon Hermine Pellissier. Elle dirige le pôle transition écologie et RSE du syndicat Écocène.
Sur les tournées, on va se poser d'autres questions. Ça veut dire qu'est-ce que je mets sur scène en termes de décor? Comment est-ce que je le construis? Avec quel matériau? Est-ce que j'envisage de le recycler? Est-ce qu'il va resservir ailleurs? Comment est-ce que je le transporte? Est-ce que je peux envisager un report modal sur du fret ferroviaire, oui ou non? Qu'est-ce que je mets sur scène? C'est aussi les lumières, mais aussi qu'est-ce qu'on prend comme système de son? Qu'est-ce que je mets sur scène? Ça, c'est aussi de la consommation énergétique, mais est-ce que je loue? Est-ce que j'achète? Est-ce que je prends du matériel neuf? Est-ce que je prends du matériel reconditionné? Est-ce qu'on transporte ce matériel? Et donc, c'est des camions supplémentaires, des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Ou bien est-ce qu'on le loue sur place?
En résumé, il faudrait donc travailler avec les artistes, les scénographes, les loueurs de matériel, le fret, les directions techniques aussi.
Et alors, limiter les conséquences sur l'environnement sans pour autant arrêter les activités des artistes.
Oui, tout à fait. Peut-être que vous vous souvenez de la fin du groupe français Chaka Ponk, qui a fait ses adieux à la scène il y a quelques mois en évoquant le bilan carbone de leur tournée, comme il expliquait l'an dernier sur France 5.
On met tout en place pour faire les tournées les plus éco-responsables possibles. C'est un énorme travail. Les gens qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour ce petit live le savent. On est lourd avec eux pour que ce soit le plus éco-responsable possible. On peut pas faire tout ça, avoir tous ces discours et avoir 1 million de personnes qui viennent.
Ouais.
Donc, faut réinventer notre activité professionnelle.
Même si... Avec le projet Matrice, le syndicat Écocène espère surtout sortir les artistes de la culpabilisation et les lancer dans la conception de tournées-tests prévues l'an prochain. Tout ça autour de plusieurs questions. Qu'est-ce qui peut ou non continuer pendant les tournées XXL et comment être plus durable? La phase d'expérimentation de ce projet se fera sur le territoire métropolitain. Avec cette initiative, Écocène souhaite à minima lancer le débat entre les artistes, les productions, à l'heure où le sujet est encore trop peu abordé selon le syndicat.
Tant qu'on peut encore écouter de la musique. Merci Juliette Pietraszewski pour la question d'environnement. On se quitte quelques minutes avant le journal et on écoute ensemble, vous l'avez reconnu peut-être, Chaka Ponk, le titre Stan. Par Chaka Ponk sur RFI. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui...
L'art-thérapie, la création qui soigne.
Demain.
100 jours de Trump à la Maison-Blanche, quelles conséquences pour la santé?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Lucie Bouteloup.
Céline Milia Baumgartner a 8 ans quand elle perd ses deux parents dans un accident de voiture. De ce drame et de son enfance, il ne lui reste que des souvenirs à partir desquels elle va tisser des histoires. Son histoire. C'est Les bijoux de pacotille, un seul en scène, mise en scène par Pauline Bureau.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.